Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une source assez particulière.
Oui, une uchronie, c'est ça. Une histoire qui imagine un « et si ».
Exactement. Elle s'intitule « Le mariage de Robespierre ». Et la grande question, c'est « et si Robespierre avait survécu à Thermidor ?»
Vertigineux comme point de départ.
Carrément. Notre but, c'est de décortiquer un peu les moments forts de ce récit alternatif.
L'idée centrale est forte, c'est vrai. Robespierre non seulement survit, mais il grimpe jusqu'au pouvoir suprême, consul même.
Oui. Et comment ça arrive, selon le texte? Quel est le déclencheur?
Alors, le texte introduit un élément fictif. Un certain général Bonaparte se trouve à Paris, en Thermidor en deux.
Ce qui n'était pas le cas historiquement.
Non, justement. Et là, dans cette fiction, il intervient et il sauve Robespierre. C'est ça le point de divergence.
D'accord. Et ça change tout, j'imagine.
Ah oui?
Le récit dit que grâce à Bonaparte, hop, Robespierre évite la guillotine. Il retourne même la situation contre ses ennemis à la Convention, le 9 Thermidor.
C'est ça. Et ensuite, il règle ses comptes.
Oui. Il fait exécuter ce qu'il appelle les « coquins et les fripons », Tallien, Fouché, Carrier, Barrère.
Les acteurs de sa chute dans notre histoire.
Voilà. Le texte dit qu'il voulait laver l'honneur de la République dans leur sang. C'est assez direct.
Oui. Et après ça, bah, c'est la consolidation du pouvoir.
Comment il s'y prend?
D'abord, il est nommé dictateur, puis consul à vie. C'est un Sénat qui remplace la Convention qui fait ça.
D'accord. Et les outils de la Révolution, les comités, le tribunal révolutionnaire...
Tassisso, supprimé, le texte le montre aussi réfléchissant à la terreur passée. Il la juge dévoyée, apparemment.
Intéressant. Une sorte de Robespierre qui aurait appris de ses erreurs.
C'est l'interprétation de l'auteur, oui. Mais ce nouveau pouvoir attire aussi des menaces.
Et notamment de son sauveur. Bonaparte devient populaire, non? Après l'Italie.
Exactement. Très populaire. Trop populaire, même.
Alors comment Robespierre gère ça?
Une manœuvre assez classique, en fait. Sur conseil de Lucien Bonaparte, le frère.
Ah oui.
Il nomme Napoléon, enfin Bonaparte, gouverneur en Corse.
Malin. Un exil doré, quoi.
C'est ça. On l'éloigne sans conflit ouvert. De la réelle politique pure.
Mais le danger vient aussi d'ailleurs, si j'ai bien lu.
Oui. Une alliance assez surprenante. Des royalistes, comme Hyde de Neuville, avec des républicains déçus. Le général Moreau, par exemple.
Avec un slogan chaque... Plutôt Louis XVIII que Maximilien Ier. Maximilien, c'est Robespierre, bien sûr.
Tout à fait. Et il prépare un attentat, la fameuse machine infernale.
Les tonneaux de poudre sur une charrette. C'est précis. L'auteur implique même Simon, son ancien secrétaire Polo.
Oui, le complot semble assez large. Cette convergence des oppositions est frappante.
Et pendant ce temps, il y a une autre intrigue, plus diplomatique.
Ah, Talleyrand ?
Toujours là. Il est ministre des Affaires étrangères de Robespierre.
Bien sûr.
Le caméléon.
Et il propose une solution politique audacieuse pour ramener la paix, surtout avec l'Angleterre.
Le fameux mariage, j'imagine.
Exactement. Le mariage qui donne son titre au texte. Entre Robespierre, qui a 42 ans, et la jeune princesse Amélie, fille du roi exilé.
Sacré Paris.
Une union pour la réconciliation. C'est l'idée. Le texte montre un Robespierre réticent. Il parle de sacrifier encore son bonheur à la patrie. L'auteur essaye de lui donner une dimension un peu plus humaine, mentionne ses cauchemars, les fantômes de la Révolution.
Ça complexifie le personnage.
Oui, et on note aussi qu'il ignore certains avertissements, comme ceux d'Éléonore Duplay.
D'accord. Donc, tout mène à ce mariage, prévu à Notre-Dame, le 3 niveaux en 9. C'est le 24 décembre 1800.
Oui, et c'est là que tout bascule.
L'attentat.
Oui, sur le trajet vers l'hôtel de ville, rue Saint-Nicaise.
Le même endroit que l'attentat contre Napoléon dans la vraie histoire.
Exactement. La charrette piégée explose au passage du carrosse.
Et ?
Ça réussit. Robespierre est pulvérisé.
Terrible. Il meurt le jour même de ce mariage censé apporter la paix.
L'ironie est totale. Et la fin de l'histoire dans cette fiction ?
Eh bien, sans Robespierre.
La voie est libre pour le retour du comte de Provence. Louis XVIII monte sur le trône.
Et Talleyrand, dans tout ça ?
Le texte suggère qu'il...
Qu'il n'est pas étranger à tout ça.
Que le piège qu'il a orchestré, peut-être, s'est refermé. Le grand manipulateur, quoi.
Voilà donc le fil de ce destin bouleversé. Une intervention militaire fictive au début, et toute l'histoire de France qui part dans une autre direction. Jusqu'à cette fin tragique.
C'est ça. Et cette exploration, au-delà de la fiction elle-même, ça nous laisse songeur, non?
Comment ça?
Sur la contingence de l'histoire. Comment un seul événement, une personne clé, à un instant T, peut potentiellement tout changer, réécrire des chapitres entiers qu'on croit connaître.
C'est vrai. Ça donne le vertige de penser à tous ces « et si ». Comment les choses auraient pu être différentes?
Exactement. C'est une question qui dépasse largement cette uchronie, en fait. Ça interroge notre vision même du passé.